Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la création. Et je vous avoue que j'étais pas très inspiré pour ce sujet de ce matin. Mais bon, après, je me suis dit qu'on peut être édifié si vous avez une bonne disposition de cœur, puisque je vais quand même lire des versets bibliques et que vous pouvez être inspiré. La parole de Dieu nous dit quand même que vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur, que ce matin, vraiment, malgré mes manquements ou encore les insuffisances, peut-être parfois théologiques, si nous désirons ardemment, le Seigneur peut aussi nous parler. Vous le croyez? Amen, amen, oui. Merci Christelle pour cette première partie qui nous a vraiment amené vers la préservation de la nature, comment nous devons réfléchir justement, parce que la création, ce n'est pas n'importe quoi, c'est la création de Dieu. Et Dieu nous a confié, nous qui sommes devenus aussi des gérants de toute cette création, et comment nous devons faire. En tout cas, merci pour la première partie. Et j'ai beaucoup aimé aussi la louange de ce matin où on me disait, on a chanté « Je veux te louer car tu m'as fait moi ». Donc il y a aussi cette création de nous, tous ensemble, mais aussi à la création de la nature. La parole d'aujourd'hui, tu peux afficher dans Romains 8 à partir de verset 18, c'est la parole que Christelle a lue, que je vais prêcher à partir d'encore. Donc c'est dans Romains 8. J'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il vous arrive d'écouter la radio ou pas? Oui, bien sûr. On entend fréquemment, souvent à la radio, des mauvaises nouvelles. C'est vrai ou pas? En ce moment, un peu moins avec les Jeux Olympiques, avec les Jeux Paralympiques, on voit des nouvelles de médailles des Français, et donc on est super content d'avoir toutes ces médailles. Mais en général, on parle souvent des nouvelles assez catastrophiques, des tremblements de terre qui se passent par-ci par-là, les inondations, non seulement en France, mais aussi ailleurs, des guerres, des morts, des divisions qui déchirent les sociétés. Et ces événements tragiques révèlent justement notre condition humaine déchue depuis le péché d'Adam. Et ça, c'est vraiment la conséquence de la situation de désordre, de souffrance qui est due à la rupture avec Dieu. Cependant, la foi chrétienne propose vraiment une espérance qui dépasse tous ces maux, celle d'un monde restauré, où la justice, la paix et l'amour triompheront. Donc ce matin, on va essayer de voir dans Romains 8, 18, 25, qui nous rappelle que nos souffrances présentes ne sont rien comparées à la gloire qui nous sera révélée. Et au lieu de lire ce verset dans Tob, je vais vous lire en version français courante. J'estime que nos souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous révélera. La création entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses enfants. Car la création est tombée sous le pouvoir de force qui ne mène à rien. Non parce qu'elle l'a voulu elle-même, mais parce que Dieu l'y a mise. Il y a toutefois une espérance. C'est que la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous savons en effet que maintenant encore, la création entière gémit et souffre comme une femme qui accouche. Mais pas seulement la création. Nous qui avons déjà l'Esprit Saint comme première part des dons de Dieu, nous gémissons aussi intérieurement en attendant que Dieu fasse de nous ses enfants et nous accorde une délivrance totale. Car nous avons été sauvés, mais en espérant seulement. Si l'on voit ce que l'on espère, ce n'est plus de l'espérance. Qui donc espérerait encore ce qu'il voit? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec patience. Amen. Jusqu'ici notre lecture. En lisant ces versets, en relisant en tout cas les versets choisis par Christelle, je me suis dit, heureusement, il y a le verset 18. Je vais vous relire. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui serait révélée pour nous. En fait, c'est le résumé de ma prédication. Oui. Il y a bien une réalité des souffrances du temps présent. La souffrance existe. D'ailleurs, dans le livre de Job, il est dit, il est écrit comme ça, mais l'homme naît pour souffrir. L'homme naît pour souffrir, comme les étincelles s'élèvent en l'air. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Job, vous savez, c'était un homme intègre, juste, qui est connu en tout cas, à l'époque, en tout cas, le plus grand riche, un homme intègre aux yeux de Dieu. Et le diable vient tenter en disant que Seigneur, si on le perd, on le touche, il va te renier, il va te maudire. Et le Seigneur dit, non, il ne reniera pas. Et je te permets en tout cas de faire tout ce que tu veux sauf de lui ôter la vie. En tout cas, ce Job a connu toute une tribulation de souffrance dans sa vie sans qu'il ait commis quoi que ce soit. En tout cas, il est connu pour avoir subi de grandes souffrances et donc en un seul jour, il perd toute sa famille. Tous ses biens, même sa santé, sa femme, en le voyant, le maudit et l'abandonne. Ses amis viennent le consoler, mais après avoir respecté un certain temps de silence, ils l'accusent d'avoir péché pour mériter un tel châtiment. Et puis, le Seigneur voit sa patience, sa justice. Ce qui m'a beaucoup aimé, en tout cas, dans cette souffrance, c'est que Job a dit ceci, « L'Éternel m'a donné, l'Éternel m'a repris, que l'Éternel soit loué. » Est-ce qu'on est capable de faire ce genre de confession quand Dieu nous ôte quelque chose de précieux? Oui ou non? C'est difficile, hein? On ne pourrait pas répondre tout de suite. Il faut vivre pour pouvoir répondre correctement. Mais en tout cas, Job, lui, il était capable de dire non, moi je ne me céderai pas, je ne vais pas abandonner Dieu, parce que je sais qui il est. Il est mon créateur et je veux lui faire confiance. Et donc, dans ce livre de Job, il est dit que l'homme naît pour souffrir. Il y a une souffrance réelle dans la vie de tous les jours. Il y a la souffrance physique, les maladies, les blessures, la vieillesse et aussi la douleur physique. Moi-même, j'ai connu plein de soucis de santé. Quand j'avais 40 ans, j'ai dû être opéré. Ici, vous voyez la trace de l'opération. Il y a une kyste qui a été opérée avant de venir à Vendeuvre. Heureusement, c'était bénin, ce n'était pas cancérigène. Il y a des petits bobos de tous les jours, en fait. Je souffre de ma tendinite. Mon père, qui a aussi souffert il a souffert aussi de sa fibrose pulmonaire qu'il a emportée il y a 2 ans. Et puis, ma maman, elle a eu aussi un cancer quand elle était un peu plus jeune. Maintenant, elle va bien. Mais en tout cas, bref, chacun d'entre vous a dû connaître des bobos, des souffrances physiques. Oui. Tant que nous vivons sur cette terre, nous ne pouvons pas vivre sans la souffrance. Ces douleurs, en tout cas, nous rappellent de la fragilité de notre corps. Nous sommes fragiles. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'être guéris constamment, soit par la médecine, soit aussi par aussi l'intervention divine. Vous savez, je vous avais déjà partagé mon expérience quand j'étais plus jeune, enfin, beaucoup plus jeune, 18-19 ans, j'avais une souffrance, je souffrais d'un mal inconnu de cœur. Et à chaque fois, je souffrais, je ne pouvais pas courir. Moi qui aimais vraiment le sport, moi qui suis un vrai sportif, je ne pouvais pas faire un long sport parce que tout à coup, hop, c'est comme si avec une pince, on piquait le cœur et je ne pouvais plus respirer. C'était vraiment très très difficile. Mais un jour, le Seigneur me donne la conviction que je peux être guéri. Et dans ma chambre, quand j'étais tout seul, je prie, Seigneur, oui, je sais que toi, tu peux me guérir. Je pose la main sur mon cœur, je prie et je ressens de l'électricité de la tête jusqu'au ventre qui descend comme un scanner qui descend et qui remonte. Et j'avais la foi que le Seigneur m'avait guéri et j'étais guéri. Et depuis ce jour, je n'ai jamais eu de douleur alors que cette douleur était constamment présente. Donc oui, Dieu nous guérit. Nous avons besoin constamment de cette guérison. Mais voilà, la réalité, c'est que l'homme souffre. L'homme souffre. La souffrance est là, réellement. Et puis aussi, nous pouvons souffrir émotionnellement. Par exemple, suite à une perte d'un être cher. Je racontais encore hier à Lionel que j'avais un jour rêvé ma fille mourir dans mon rêve. Hein, c'est pas... C'était pas une réalité, mais dans mon rêve. Ma précieuse fille mourait devant mes yeux dans mon rêve et je pleurais dans mon rêve. C'était vraiment une tristesse profonde que nul ne peut comparer. Et quand je suis réveillé, quand j'ai retrouvé ma fille, j'étais tellement dans la joie, dans la joie. Je me suis dit merci Seigneur, je ne sais pas combien de fois j'ai dit merci à ce moment-là. Est-ce que nous sommes reconnaissants pour des petites choses comme ça? Ce que nous avons maintenant, on devrait peut-être remercier davantage, n'est-ce pas? Non pas ce que nous n'avons pas. Souvent, on se plaint parce que nous n'avons pas quelque chose. On se compare toujours par rapport à ceux qui ont plus que nous. Alors qu'on devrait être plus reconnaissant de ce que nous avons déjà. Enfin, il y a cette souffrance. Je me suis un peu égaré. J'étais en train de parler de la souffrance émotionnelle. Oui. En parlant de la perte d'un être cher, je me suis aussi rappelé, cette semaine, j'ai dû discuter avec une amie d'enfance. Ça faisait presque 25 ans que je ne l'avais pas eu au téléphone. Et là, tout à coup, cette semaine, elle me téléphone. « Ça va, Jean ?»« Mais c'est qui ?»« Oui, c'est moi. » Et puis elle m'explique. « Ah, oui, c'est toi. » On était super proches. Et ça m'a rappelé plein d'histoires. Et ça m'a rappelé surtout une histoire parce que j'étais très proche avec son beau-frère, c'est-à-dire le mari de sa sœur. Et avec ce beau-frère, un jour, voilà, on était dans la même église, on chantait, on louait un dimanche soir. Lui, il était marié avec un petit bébé. Il avait un petit bébé. On a loué ensemble toute une après-midi, après le culte. On n'a pas voulu partir à la maison tout de suite. Comme on avait la clé, on est resté encore avec la pianiste, avec plusieurs personnes. On a chanté, loué, comme ça. Après avoir mangé ensemble. Et puis, on a passé un bon temps à l'après-midi. Puis le soir, on me dit que, en fait, il a été hospitalisé parce qu'il avait super mal au ventre. Ah, d'accord, c'est pas grave, parce que moi, je l'ai vu en bonne santé. On a vraiment passé du bon temps. Et puis le mardi soir, on m'appelle, il est en réanimation. Et il meurt le mardi soir. J'ai pu le voir juste avant. Voilà, mais il était inconscient. Oui, on l'avait placé dans un coma artificiel pour permettre à toute sa famille, ses amis, de venir le voir. Apparemment, c'était une faute médicale. On peut se dire, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi cette souffrance quand j'ai vu sa femme, son enfant pleurait devant son mari, devant le père, devant son père. C'était atroce. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi Il doit mourir à cause d'une faute d'une autre personne. Ce n'est pas sa faute à lui. Ce n'est pas la dégradation suite à une dégradation de sa santé. Non, pas du tout. C'est à cause d'une faute médicale. Oui, l'homme subit souvent les souffrances injustes. Parfois, c'est justifié parce que nous l'avons bien mérité. À cause de notre péché, on peut aussi subir pas mal de conséquences. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les souffrances que nous subissons de manière injuste. Et ça, c'est la réalité. La Bible nous dit que c'est la réalité. L'homme naît pour souffrir, que ce soit justifié ou injuste. Injustifié. La souffrance, il y a aussi la souffrance spirituelle. La souffrance spirituelle. Suite à des souffrances ou des douleurs, des épreuves injustifiées ou injustes, on peut se dire, mais Seigneur, mais pourquoi? Et on peut vivre une certaine crise de foi, des doutes, des sentiments d'abandon par Dieu. Et ça peut nous amener à questionner notre propre relation avec Dieu et aussi la signification de notre souffrance. Oui, il peut y avoir plusieurs souffrances possibles, mais si je relis encore le verset 18, il est écrit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées, c'est quelque chose qui est incomparable, à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » La gloire à venir. J'avais déjà prêché sur le royaume des cieux et on avait fait ce dessin. Voilà, c'est Myriam qui avait dessiné ça. C'est vraiment super, en tout cas, de voir le dessin qui reflète un peu ce qui va se passer au jour où le Seigneur reviendra. Nous serons enlevés auprès du Seigneur. Les morts ressusciteront. Etc. Oui, la gloire à venir fait référence donc à la manifestation future de la perfection que Dieu va créer encore. Et il sera dans la plénitude. Nous serons dans les félicités avec le Seigneur. Et nous, les croyants en tout cas, expérimenterons après la résurrection la fin des temps. Philippiens 3, 20, 21, il est dit que mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps d'humiliation en le rendant conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Quand le Seigneur reviendra, oui, il va faire de nouvelles choses pour notre bonheur. 1 Corinthiens 15, 52, il est dit que dans un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnerait, les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. La gloire à venir, nous serons transformés, nous ne serons pas comme nous-mêmes actuellement. Le Seigneur nous transformera et nous serons élevés pour rejoindre le Seigneur. Sur la nouvelle terre, nouveaux cieux. Voilà donc la gloire à venir est vraiment une promesse divine qui englobe la résurrection, la transformation, la communion parfaite avec Dieu et aussi, surtout, la fin des souffrances. La fin des souffrances. Je viens d'étaler plein de souffrances que nous subissons aujourd'hui sur la terre. Mais à la fin, il n'y aura plus de souffrance. Voilà, c'est ça qui sert de fondement à la foi chrétienne et qui nous fait espérer davantage. Ainsi, nous, les chrétiens, trouvons notre motivation pour vivre une vie sainte Et ainsi aussi, à cause de cette espérance, à cause de cette vie sans souffrance que nous aurons un jour, ben, nous pouvons persévérer davantage dans les épreuves, et surtout en espérant aussi avoir une vie plus, une relation plus profonde et éternelle avec le Seigneur. J'ai commencé à quelle heure ma prédication ? Il est 11h16. Ça fait combien de temps ? 20 minutes déjà ? Okay. Bon. Donc, je vais un peu parler de la création quand même. Après avoir dit justement qu'il y a une souffrance chez les hommes, Paul élargit ensuite sa vision sur la création. Non seulement donc les êtres humains souffrent, mais aussi toute la création. Et au verset 22, il est dit que encore la création entière gémit et souffre comme une femme qui accouche. La création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Oui, la nature, depuis le péché d'Adam, elle souffre à cause du péché, à cause de l'entrée du péché. Tout à l'heure, Christelle nous a invités à former petits groupes et à discuter justement les différentes solutions possibles pour améliorer la création. Je ne sais pas ce qu'on a discuté, en tout cas ce que vous avez discuté, mais dans notre groupe, on a quand même pas mal discuté aussi. Hein, voilà, on pourrait faire ceci, cela, etc. Oui, la création souffre, c'est une réalité. Tout ça à cause du péché, à cause surtout de la convoitise de l'homme. Dans notre discussion, on disait que l'homme est tellement convoite. On peut dire comment ? Comment ? Avide, voilà, avide. Merci. Avide, que voilà, ils pensent pas du tout à la nature. Leur objectif, c'est de gagner plus d'argent, sans penser à la conséquence du péché. Et dans notre discussion, on me disait, alors Jean, t'es un écolo ? Je dis, oh non, pas du tout. J'étais pas du tout écolo. Jusqu'à ma rencontre avec ma femme. Hein, je n'étais pas du tout quelqu'un qui triait. D'ailleurs, à l'époque, il n'y en avait pas. Hein, c'est tout récent. À l'époque, on jetait tout à la poubelle. Hein, il n'y avait pas de tri comme aujourd'hui. Je me dis que, heureusement, ce n'est pas seulement les chrétiens qui réfléchissent pour la préservation de la nature, mais tous les hommes. Heureusement, le Seigneur nous a accordé la grâce commune. Qu'est-ce que c'est que la grâce commune ? C'est la conscience qu'il nous accorde. Vous savez, Dieu nous donne aussi à tous, non pas seulement aux chrétiens, mais aussi aux non-chrétiens, que c'est mauvais de mentir, de pécher, de tuer, de mentir. Tout cela, on ne sait pas. La grâce commune que tout le monde, que c'est mauvais. Tout ça a permis d'avoir une certaine ordre créationnel, ordre du monde entier. Sinon, ce serait vraiment catastrophique. Ce serait l'état de guerre. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu tout ce qui se passe pendant la guerre. Je me dis, c'est incroyable comment l'homme peut être aussi mauvais, aussi méchant, aussi diabolique. Comment un homme peut commettre ce genre de péché ? On s'étonne nous-mêmes. Mais quand on voit un peu la réalité des choses, cette personne-là était une personne normale juste avant la guerre. Et pendant la guerre, il se transforme. Il n'y a plus de confiance. Heureusement, en tout cas, je me dis, merci Seigneur, parce que tu accordes ta grâce commune à tous. Comme tu accordes la pluie aux bons et aux mauvais, tu accordes aussi cette grâce commune à tous pour la préservation de la nature. Depuis cet été, la mairie nous a laissé un compost compostage, non, compost, un compost, là juste devant l'église, c'est incroyable, hein? Il faut pas juste être chrétien pour penser à la préservation de la nature, mais voilà, Dieu nous accorde cette bonne conscience à tous pour préserver la nature. Ça, c'est vraiment un sujet de reconnaissance aussi. Mais la Bible nous dit quand même que la nature souffre à cause du péché, à cause de nous. La nature elle-même souffre à cause du péché, de la dégradation. La conséquence, c'est que les écosystèmes sont perturbés, les habitats détruits. Souvent, ah oui, je disais aussi tout à l'heure dans notre groupe que parfois on construit dans des zones inondables. Tout ça, pourquoi? À cause de l'argent. La mairie distribue le permis de construire partout parce qu'ils veulent gagner beaucoup d'argent. Alors que c'est une zone inondable. Et après, les gens deviennent très pauvres après. Enfin, ils subissent des catastrophes naturelles. Et c'est normal. Tout ça. Enfin, bref. Là, je vais encore. Enfin, bref. Voilà, il y a beaucoup d'espèces en danger. La souffrance de la nature est un reflet de notre propre condition aussi. Elle nous rappelle la fragilité de notre monde et aussi l'importance de notre rôle en tant que gardien de la Terre, non pas de la galaxie, gardien de la Terre. Hein? Voilà. Bon, ceux qui ont rigolé, ils savent pourquoi ils ont rigolé. En tant que chrétiens, en tout cas, nous sommes appelés à reconnaître ces souffrances et aussi à agir pour la préserver, aussi pour la restaurer. J'aimerais vous lire encore les deux derniers versets, 24-25. Nous avons été sauvés, mais en espérant seulement. Si l'on voit ce que l'on espère, ce n'est plus de l'espérance. Qui donc espérerait encore ce qu'il voit? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec patience. La Bible nous parle aussi de la restauration de la nature. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. La persévérance est essentielle, cela reflète en tout cas une attitude de foi inébranlable en attendant justement la restauration de toutes ces choses. On pourrait faire beaucoup de choses. Je pourrais encore vous proposer beaucoup de choses, mais je ne suis pas un spécialiste. Je pense que notre groupe... D'ailleurs, je me suis dit que le jour où nous aurons un culte sur l'écologie, sur la création, il ne faudrait pas que ce soit moi qui prêche, parce que je ne suis pas du tout un spécialiste. La prochaine fois, je laisserai volontiers à Élisée ou à quelqu'un d'autre qui est mieux placé pour réfléchir et pour vous donner aussi des solutions pour bien surmonter cette souffrance de la nature. Mais en tout cas, au niveau collectif, en tant que corps du Christ, nous devons aussi nous unir davantage pour défendre la création. Soutenons vraiment les initiatives environnementales. Et puis surtout, c'est important d'éduquer nos enfants. Hein, souvent, voilà, c'est par l'éducation que nous pouvons aussi transmettre les bonnes valeurs. Donc, éduquons nos enfants sur l'importance de protéger la planète et aussi, pas seulement des solutions à agir, mais aussi, on peut aussi agir spirituellement. On peut prier. Prier pour la guérison de la terre. Alors certains d'entre vous me diraient, mais de toute façon, à la fin du monde, tout sera détruit. Tout sera détruit. Bien sûr, il y aura des tremblements de terre. Il y aura l'eau de la planète qui sera transformée en sang. Enfin, il y a plein de choses qui vont se passer. Mais même si le monde va être détruit complètement, ce que nous devons faire, c'est gérer, ou plutôt assumer notre rôle de gardien de la terre. Hein? Nous devons justement planter un arbre, même si demain nous mourrons. Hein? Car nous avons été nommés par Dieu lui-même pour la préservation de la nature. Je vais conclure. Voilà, le passage de Romains 8 nous enseigne que la souffrance présente n'est pas la fin de notre histoire, Elle est une partie de notre voyage et elle est suivie par une gloire éternelle qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. La création, tout comme nous, souffre en attendant la rédemption finale. En attendant cette rédemption, engageons-nous à vivre selon l'Esprit, à prendre soin de la création et aussi à cultiver l'espérance de la gloire future, même si nous souffrons personnellement, de manière communautaire, ou encore de manière nationale, ou encore la création souffre, sachez que voilà, nous irons un jour dans ce monde où il y aura la paix éternelle, l'amour, où il n'y aura ni deuil, ni souffrance, ni douleur. Que cette espérance nous fortifie, nous encourage et nous pousse à être des témoins fidèles de la promesse de Dieu. Que Dieu nous accorde la sagesse et la force pour persévérer dans l'espérance et pour vivre en tant que témoins de la gloire à venir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur parce que malgré les épreuves que nous pouvons traverser, malgré la dégradation de la nature, de ta création, tu nous as donné cette bonne nouvelle que nous serons un jour restaurés. Il y aura un monde où il y aura la présence perpétuelle de toi et que dans ce monde, dans ce nouveau monde, tu seras le chef, tu seras notre ami, tu seras, Seigneur, présent à nos côtés pour nous donner, Seigneur, ta paix, ton amour parfait et aussi, surtout, un monde sans souffrance, sans deuil, sans épreuve. Et c'est cette bonne nouvelle qui nous fait tenir malgré les souffrances d'aujourd'hui. Seigneur, quand je pense à toutes ces personnes qui souffrent en ce moment, je me sens tellement désolé. Mais je sais aussi que malgré les souffrances, ils peuvent continuer à aller de l'avant parce que tu es présent, tu les entoures. Seigneur, donne-leur vraiment la force aussi à prendre ce chemin qui nous mène vers la rédemption. Pareillement aussi pour la nature, pour ta création. Merci pour cette belle nature que tu nous as accordée. Et pardon aussi pour toutes les fois où nous avons dégradé cette belle nature à cause de notre corruption, notre convoitise. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, que nous puissions être plus responsables par rapport à tout ce que tu nous as confié. Nous te prions tout cela au nom de Jésus. Amen.